Le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, où il est dit : car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Nous approchons de Noël. Le sujet était tout trouvé pour moi. Maintenant, il me fallait savoir comment vous le communiquer, de quoi également vous entretenir, parce que c'est le plus important, ce que Dieu a à nous dire. Donc, je me suis placé devant lui et je lui ai demandé, Seigneur, avec ta venue ici-bas, avec ce message-là, que veux-tu que je dise ? Il m'a répondu. Alors, la venue de Jésus dans le monde, c'est la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Vous connaissez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, ça peut être toi ce matin. Amen. Je me suis placé parmi les quiconques et j'y suis encore. Alors, si nous voulons vraiment connaître ce que sont les sentiments divins, il nous faut regarder, à cet événement, parce qu'il se manifeste pleinement, la mentalité de Dieu, qui est résumée par une expression. Elle est là, il y en aura deux, mais déjà celle-ci ce matin, c'est l'Esprit de Christ. Amen. L'Esprit de celui qui est oint, l'Esprit de Jésus, il est là manifesté ce matin. Amen. Notre sœur l'a bien saisi, et tout à l'heure, elle le prendra le baptême. Mais la réalité, elle est là. C'est que quand il y a justement l'Esprit de Christ qui se manifeste, on ne résiste plus. Amen, brise, soumet, et tout est là, mes amis. Alors, ces termes désignent, bien entendu, le Saint-Esprit, mais aussi, pourrait-on dire, l'état d'esprit et la forme de pensée qui ont animé Jésus. Étant l'égal de Dieu, on n'a point regardé cela comme pour pouvoir arracher tout simplement ce qui lui revenait, mais il s'est soumis. Amen. On va le voir, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Amen. Étant l'égal de Dieu, il a choisi tout simplement de lui obéir, parce que Jésus est Dieu. Alors, c'est ce que nous appellerons aussi, et le deuxième terme est là, l'esprit de Noël. Le monde, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a l'esprit en ce moment qu'à la fête. L'an dernier, c'était pas chouette. L'année d'avant, c'était pas chouette non plus. Donc, cette année, on veut faire la fête. Mais on commence à entendre qu'il y a des restrictions un petit peu partout. La Hollande ferme ses frontières et va mettre le confinement. L'Allemagne, pareil, la Pologne et bien des pays commencent à serrer un petit peu partout parce que il y a ce virus qui se propage de plus en plus. Alors, quand je parle donc de l'esprit de Christ, de l'esprit de Noël, ces considérations amènent au moins deux conséquences. La première, c'est que c'est un encouragement à la foi. Dieu a agi pour nous. Bien plus, Dieu est venu au milieu de nous. Il est venu pour se rencontrer avec nous. Alors, lorsque nous apprenons à connaître de quel sentiment Dieu est animé, nous sommes, nous aussi, encouragés à nous approcher de lui. Amen. Nous approchons de lui, il s'approche de nous. Et il se passe des choses formidables pour nous. Amen. La seconde, à valeur d'exemple, si dans nos relations humaines, chacun a accepté de tendre vers l'exemple de Jésus, parce que c'est le modèle, Jésus est le modèle, bien des choses seraient facilitées et la paix serait là. Amen. Elle s'installerait, elle également serait préservée. C'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'est vrai que c'est difficile quand on n'a pas l'Esprit de Christ, quand on n'est pas habité par le Saint-Esprit, eh bien, de pouvoir, quelque part, eh bien, mettre cette parole qui nous est donnée à chacun, elle nous est communiquée, eh bien, tout simplement en action, c'est-à-dire de la vivre. Quand vous marchez sur le pied, qu'est-ce que vous dites ? D'abord, aïe. Et puis après, si on vous marche deux fois sur le pied, la même personne, vous dites aïe, mais elle ne peut pas faire attention. Et puis une troisième fois, ça commence à... Comment on dit, la moutarde commence à monter au nez. Hein. Et oui, puis il suffit de peu pour que ça explose. Alors voyez un petit peu, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne peut pas vivre ce que Jésus a vécu. Elle, quand il dit, si on vous prend votre manteau ou votre tunique, tendez l'un ou l'autre. En plus, moi, je l'ai fait. Vous vous surprenez, mais moi, je l'ai fait. Et la personne qui avait commencé à me prendre quelque chose, elle m'a dit, ah ben tiens, allez. Eh oui, parce que j'ai dit, tiens, prends ça en plus. Et il restait bête. Alors, il m'a dit, tiens, je te le rends. Eh bien oui, ça marche comme ça. Alors, entre l'esprit du monde et l'esprit de Jésus, il se trouve tout l'abîme infranchissable qu'il y a entre la chair et l'esprit. C'est vrai, il y a deux mondes là. Hein. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit, et je prends dans la Bible de la Colombe, chapitre 8, versets 6 à 9, il dit « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. » Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, ni sous celle de l'esprit, mais sous celle de l'esprit, pardon, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Avez-vous l'esprit de Christ en vous ? Vous lui appartenez. Amen. Alors, il est nécessaire de rappeler que cette imitation de Jésus, par cette ressemblance ou imitation de Jésus, ne peut pas être humaine, hein, tout simplement pour pouvoir afficher certaines apparences uniquement extérieures. Donc, c'est de l'intérieur qu'il se passe des choses. C'est dans nos cœurs, c'est dans notre âme. Amen. Et pour réellement vivre cela, eh bien, il faut recevoir cette capacité. Comment ? Par une nouvelle naissance. Amen. Naître de nouveau. Passer par... Eh bien, cette naissance surnaturelle, hein, il faut naître de l'esprit pour pouvoir manifester le fruit qui va avec. Amen. C'est-à-dire être capable d'aimer quand on nous fait du mal. Dire « je te pardonne ». Mais ce n'est pas que des mots. Ça se passe là-dedans. Alléluia. Alors, cet aspect fondamental de l'expérience chrétienne, elle revêt une dimension absolue et incontournable pour quiconque veut être sauvé. Et ça passe par un esprit de soumission. Amen. Se soumettre. Jésus, je rappelle, est le modèle. Lui, il s'est soumis. David dira ceci dans le psaume 40, verset 7. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et toi, et ta loi, pardon, est au fond de mon cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. Vous voyez, ce n'est pas superficiel. Ça pénètre en nous. Accompagné de cette vie surnaturelle, celle du Saint-Esprit, on est capable de vivre la parole de Dieu. En tout cas, ce texte prophétique a été inspiré par l'Esprit de Christ. C'est ce qui a animé David. Il exprime là bien l'esprit de soumission qui a animé Jésus et qui l'a animé jusqu'au bout, bien sûr. Et lui, il est venu pour se soumettre au sacrifice indispensable, parce que sans le sacrifice de Jésus, personne ne pourrait être là ce matin. En tout cas, nous pourrions être là, mais pas sauvés. C'est parce que un jour, Jésus a accepté la soumission jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire la mort, cette mort expiatoire sur le bois de la croix, qu'aujourd'hui, eh bien oui, nous pouvons vivre tout simplement sous son regard, pouvons communier ensemble avec lui, bien sûr. Et tout cela, eh bien, Jésus l'a accepté parce qu'il voulait tout simplement, eh bien, le salut de tous les hommes. Alors, il est évident qu'il ne faut pas en rester à la crèche. Jésus est venu, bien sûr, et il est né de la Vierge Marie, bien sûr, oui. Mais ensuite, il a grandi. Et il faut savoir que eh bien, ça a existé. Il a existé justement pour permettre, eh bien, en tant que sauveur, d'atteindre l'objectif final de sa venue. Sa venue, c'est le but final, c'est la croix, c'est la mort expiatoire. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos péchés, chargé de nos iniquités. Donc, il est venu pour accomplir les Écritures, je dirais, d'une manière parfaite. La soumission et l'obéissance sont, je dirais, supérieures au simple fait d'obéir. Pourquoi ? Je m'explique. Il est possible d'obéir sous la contrainte, d'obéir avec un cœur insoumis. Eh oui, la soumission, quant à elle, eh bien, elle reflète un état d'esprit et une disposition agréable à Dieu. Dieu se réjouit quand il y a cette soumission de cœur. Amen. Ça me coûte, c'est pour Dieu que je le fais. Alléluia. Et quand c'est pour Dieu, eh bien, c'est un bonheur que de faire ce qu'il nous demande. D'ailleurs, il ne nous demandera jamais des choses qui nous sont impossibles. Il nous demandera des choses que nous pouvons faire. Quand il nous demande quelque chose, je le fais de bon cœur, c'est-à-dire je le fais dans la soumission, non pas par contrainte, des fois ça m'est arrivé, mais ça ne paye pas. Mais quand c'est vrai, c'est fait de tout cœur, de bon cœur, avec joie, mais mes amis, quel bonheur! Quel bonheur! Je pense que vous avez expérimenté cela. Dans sa lettre aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 7, Paul dit « Ayant paru comme un simple homme, dont il parle de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et comme le dit Paul, l'esprit de soumission va de pair avec celui de sacrifice et de service. Amen. Si nous avons l'esprit de Noël, nous manifesterons la même disposition à la soumission envers Dieu et envers sa parole. Seigneur, tu me le demandes. Ok, je le fais. C'est ton désir, Seigneur ? Alors oui, eh bien, je veux réjouir ton cœur. Je me soumets. Amen. Je me laisse briser. Je me laisse transformer. En tout cas, ce sera le chemin d'une totale victoire sur la mentalité ambiante de ce monde, hein, celle dont Satan est celui qui dirige, hein, qui imprime son désir, tout simplement. Lui, il vit et il agit dans un esprit qui est complètement à l'opposé. C'est pourquoi, eh bien, il est irrémédiablement perdu. En tout cas, ceux qui sont sauvés prouvent et démontrent leur salut par leur soumission. Amen. Notre sœur va se faire baptiser parce que la Bible le demande. Hein, celui qui croit et qui est baptisé est sauvé. Amen. C'est un acte d'obéissance. C'est une soumission de cœur. Personne ne te force. Hein? Non, bien sûr que non. Mais en tout cas, c'est là l'expression, je dirais, de l'Esprit de Christ qui est en toi, tout simplement. Tu veux, et bien sûr que nous voulons nous discerner la volonté de Dieu. Nous voulons aussi l'appliquer pour nous y soumettre, parce que c'est cela, c'est ce qui va faire notre bonheur. Et c'est l'apôtre Jacques qui dit ceci, le frère du Seigneur, Jacques chapitre 4, verset 7. D'abord, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Amen. Ceux qui sont nés de nouveau, eh bien, ils respectent aussi l'autorité humaine. Ça vous dérange ? Quand, bien sûr, elle ne crée pas un conflit avec celle, justement, qui est due à Dieu. Je dois me soumettre à Dieu. Je dois me soumettre aux autorités. Tant que, eh bien, la soumission aux autorités ne m'amène pas à rejeter ou à renier le Seigneur. Eh oui. Donc, nous avons besoin de communion avec lui pour, justement, passer des temps difficiles, quelquefois. C'est important, hein? Pierre dit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. » Dans la même ligne, Paul rajoute dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, et puis après dans Romains 13, verset 5, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore, par motif de conscience. » Amen. Il y a la parole de Dieu qui me le recommande. Je dois le faire. Et même quand c'est des situations difficiles qui pourraient nous mettre en porte-à-faux, si de tout cœur, eh bien, je mets la parole de Dieu en action dans ma vie, il va se passer des choses. Amen. Il y a des choses qui vont se produire et ça n'ira pas au-delà de ce que Dieu va permettre. Amen. Alors, vu le fossé qui sépare ces considérations de la mentalité du monde, seulement ceux qui ont été régénérés ou qui désirent l'être comprennent sans être scandalisés, eh bien, un tel message qui est issu de l'Esprit de Christ. Hélas, parce qu'il y a un hélas, la chair elle vit la soumission comme si c'était d'une brimade, quelque chose de dévalorisant, d'humiliant. C'est pourquoi, eh bien, la réaction de la chair, elle est là. Elle repousse, elle refuse. Mais celui qui vit de cette manière passe à côté de riches bénédictions. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est le meilleur. Amen. C'est le meilleur. Le meilleur ne nous viendra que de Dieu. Il ne peut pas nous venir de la société, de ce monde dans lequel nous vivons. Mais il va nous venir de Dieu. Des choses précieuses qui vont nous accompagner jusque là-haut. Amen. C'est des richesses qui ne peuvent ni se corrompre, ni se rouiller, ni se détruire. Alors c'est pourquoi il faut rechercher, là aussi, quelque part un esprit d'humilité. Le signe de l'enfant emmailloté est rempli d'un message qui exprime, bien sûr, plusieurs vérités qui sont en relation justement avec l'humilité. Il montre la puissance de Dieu qui a accompli d'abord cette conception miraculeuse par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu couvrir Marie, Marie est devenue enceinte, et elle a enfanté eh bien, celui qui est devenu le Sauveur, Jésus. Amen. Il montre aussi l'humilité du Seigneur qui a accepté cet abaissement, parce que Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair, qui est venu en tant qu'homme, alors qu'il est le Créateur de toutes choses. L'humilité est supérieure à la modestie. Elle va de pair avec la discrétion du caractère. Paul dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il révèle cela dans cette lettre, mais déjà dans d'autres également, bien sûr. Il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Parce que Jésus s'est fait pauvre, parce que Jésus est descendu quelque part à notre niveau, eh bien, on peut être enrichi. Et on est enrichi. Également dans Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Alors on trouvera toujours des contestataires. Dieu est amour. Si Dieu est amour, il me sauvera. Non ? On n'entend pas ça ? Eh oui ! Alors, pour ceux qui voudraient contester, on peut objecter, parce que se dire, mais pourquoi Jésus ? Pourquoi Dieu ? Pourquoi si ? Eh bien, que d'abord, tout tyran que la terre a porté a aussi d'abord été un enfant fragile. Un enfant, c'est fragile. On agit avec précaution. On est sensible. On va doucement. Mais il y a également des sérieuses différences qui peuvent être opposées, je dirais, à cet argument. Déjà, comme le dit le texte, nous l'avons lu tout à l'heure, au Philippiens chapitre 2, verset 5, Jésus était en forme de Dieu avant son incarnation. Amen. Il était enfant, oui, mais avant. Il existait déjà. Il était Dieu. Son abaissement volontaire a donc été un acte de sacrifice et cet esprit sera manifesté continuellement tout au long de sa vie sans la moindre entorse ni défaillance. Et cette humilité, eh bien, elle a été conservée sans faille jusqu'au bout. Jusqu'où ? Jusqu'à la croix. Amen. C'est Jésus lui-même qui a lancé cette magnifique invitation. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Qui a besoin de repos? Qui a besoin de repos? Venez à Jésus. Amen. Venez à moi, dit-il. C'est là que vous allez trouver tout simplement le repos pour vos âmes. Alors imaginons maintenant un monde où les hommes agiraient en fonction justement de cet esprit, hein, cette forme de pensée. Eh bien, ce serait la réalisation de l'enseignement des apôtres. Je prends Philippiens chapitre 2, versets 2 à 4 dans la Bible à la Colombe. Hein, il s'adresse aux Philippiens. Dans sa lettre, il leur dit ceci, « Mettez le comble à ma joie, afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alléluia. C'est pas formidable ? Ça peut être formidable si on met en application tout simplement l'enseignement des Écritures. Alors, ce qui me frappe le plus, ce sont les conseils de l'impétueux Pierre. 1 Pierre 3,8. Il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Et au chapitre 5, verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. » Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous vous rappelez comme il était impétueux? En disant au Seigneur, non, non, tu n'iras pas, hein, moi je vais m'occuper de ça. Puis il a déraillé. Hein. Il a été capable de marcher sur les eaux, mais il était capable aussi de réclamer le bras du Seigneur parce qu'il en avait besoin. Seigneur, aie pitié de moi. Il était en train de prendre le bouillon, comme on dit, il était en train de couler. Eh oui, alors lui nous dit tout simplement, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Il s'est bien produit quelque chose chez lui, hein ? Croyez pas ? Eh oui, il a été atteint tout simplement par l'Esprit de Christ, l'Esprit de Noël. Alors il y aura aussi un esprit de conciliation. Eh oui, c'est important, hein ? Le Seigneur n'est pas venu sous une forme angélique ou au contraire guerrière, il est venu sous la forme d'un enfant. Un enfant n'a pas une apparence impressionnante. Vous avez été impressionné par les enfants? Non. Mais qu'est-ce qu'on est devant? Coucou! Voyez un petit peu. Eh bien oui, c'est pas impressionnant. Il n'a rien d'arrogant, un enfant. Non? Dieu n'est donc pas venu vers nous sous une forme belliqueuse, impressionnante, dans l'intention d'en découdre tout simplement avec nous et de se disputer avec nous, pas du tout. Il démontre en venant sous la forme d'un enfant son esprit de conciliation. Il a fait le premier pas. C'est lui qui est venu vers nous. Il est descendu de son ciel de gloire, il est venu jusqu'à nous. Alors ce premier pas, il le fait envers des hommes qui vivent sans lui, qui se comportent bien souvent comme de véritables ennemis à son égard, mais également entre eux. Que de rivalité ici-bas. J'ai entendu souvent, il faut jouer des coudes pour arriver. Et oui, il faut écraser l'autre pour pouvoir le supplanter et avoir soi-même. Hein. Alors souvenons-nous que nous étions comme ça. Hein, c'est ce que dit l'Écriture, Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Ah, Paul n'oublie pas de s'inclure lui-même. Lui aussi, hein, il a été un farouche opposant à Jésus. Puisqu'il était mandaté de l'être, il descendait à Damas pour arrêter tous ceux qui suivaient tout simplement cette doctrine, la doctrine de Christ, celle de l'amour, celle du partage, celle de la bonté. Hein. Éphésiens 2, 3, il dit « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors, ce que Paul fait ressortir également, et il le fait dans tout son enseignement, c'est que l'esprit de conciliation devient celui de la réconciliation. Alléluia. Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui le veut. C'est lui qui le désire. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Formidable de pouvoir participer. Est-ce qu'il y a cet esprit de service dans vos cœurs? On est sauvés, c'est notre vocation, hein, sauvés pour servir. En tout cas, la recherche de la paix avec les autres, elle exprime bien, oui, l'esprit de Christ. L'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, verset 14, nous exhorte à rechercher la paix avec tous. Et la sanctification, c'est-à-dire la mise à part, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Romains, chapitre 12, verset 18, c'est Paul qui dit, « S'il est possible, tant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tant que ça dépend de toi, recherche la paix. On te veut de la querelle, réponds avec amour. » Ça veut dire que ce n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas facile. Mais le Seigneur nous le demande. Donc, il va nous y aider. J'ai vécu, si je parle de cela, c'est parce que moi, je l'ai vécu. J'ai vécu. Avant, je prenais les poings, je les fermais, et puis boum. Et puis, quand je me suis converti, j'ai dit non, si je veux repasser le message de l'amour, je ne peux pas attendre les poings. C'est impossible. Donc, il a fallu que j'ouvre mon cœur, que je me laisse pénétrer par la présence du Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, je pouvais parler avec amour. Je prie pour toi. Tu pries pour que je meure ? Non, oui, il mourira lui-même, mais je ne vais pas lui dire comme ça, parce qu'il n'aurait pas compris. Mais je prie pour que Dieu touche ton cœur. Amen. Bien sûr, il y aura la mort au vieil homme. Hein, mais le plus important, c'est qu'il comprenne que je priais parce que, quelque part, Dieu m'a donné de l'amour pour lui, même s'il me voulait du mal. Amen. Et la première application à faire est de répondre, bien sûr, à cet esprit de conciliation et de réconciliation qui est en Dieu. Il s'agit de faire la paix avec lui déjà, avec le Seigneur, et puis de cesser toute hostilité à l'égard de Dieu. Ce qui t'arrive, non, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce qui peut t'atteindre, non, non, ce n'est pas la faute de Dieu. Peut-être que Dieu le permet, mais est-ce que toi, tu t'es pas mis dans une situation dangereuse? Vous voyez, c'est vite fait de lever le poing. Moi, je l'ai fait, j'ai levé le poing contre lui. Je l'ai accusé. Mais si on réfléchit bien après, quelque part, on s'aime et ensuite, il faut, comme tu disais vendredi soir, il faut récolter, il faut moissonner. Hein, et oui. Alors, la deuxième application consiste à manifester un désir de conciliation dans nos conflits avec les autres, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la société, même au sein de l'Église. Jacques dit ceci, Jacques 3, 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Quand je dis à quelqu'un « je prie pour toi », je prie pour que Dieu te délivre, ce n'est pas de l'hypocrisie. Quand je dis à quelqu'un « mon ami, je t'aime », parce que Dieu a mis de l'amour dans mon cœur pour toi, c'est de l'amour. Amen. Et ça engendre beaucoup de choses, hein. On va le voir, on va en parler tout à l'heure. Dans Matthieu 5, 23, Jésus dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Ben oui, moi j'ai envie de présenter une offrande à Dieu, je veux que ça aille jusqu'au bout. Hein. Non, parce que je veux réjouir le cœur du Seigneur. Donc je vais faire ce qu'il faut avant. Je ne veux pas que ça se termine en catastrophe ou en queue de poisson. Non, non, je veux aller jusqu'au bout. Et par exemple, vouloir avoir raison quand on a tort, ben c'est une attitude grave. J'ai tort. Ça va toucher mon orgueil. Eh bien, tant mieux. Non? Ben oui, tant mieux. Hein? Ne jamais être prêt à la moindre concession. Ça n'a rien de spirituel. Croyez pas? Il m'est arrivé, mais pour la paix, de dire ok, c'est bon. Allez, je t'accorde ceci ou cela, mais c'est pour la paix. Même si je n'étais pas coupable, mais je préférais plutôt que de faire du mal, plutôt qu'une église puisse souffrir. Non, non, ok, tu as raison. Je prie pour toi. Je ne recherche pas la querelle. Je ne vais pas attendre, comme le disent certains, la vengeance est un plat qui se mange froid, glacé. Non, 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 non. Non, non, je vais prier pour qu'il se passe quelque chose. Il m'a fallu attendre des fois 7-8 ans pour que la personne reconnaisse ses torts. Et il vient de me dire, je te demande pardon. C'est drôle, il nous est arrivé quelque chose là. Quand j'ai commencé à prendre ma retraite, donc c'était en 2016, j'ai des personnes qui m'ont appelé, mais de loin, que je n'avais plus vu depuis, je ne sais plus, 10-15 ans, qui m'ont demandé pardon au téléphone. Situation, je l'avais complètement oubliée, parce que moi, c'était pardonné depuis longtemps. Hein. Mais ça fait drôle quand on vous appelle pour vous dire oh, « Ah ouais, ouais bah écoute, tu es pardonné. Mais moi, j'avais oublié il y a longtemps. Hein. » Vous voyez ? Mais la personne était restée. Vous voyez comme quoi ça reste quand on n'est pas clair. Vous voyez ? Quand ce n'est pas droit. Ça nous range à l'intérieur. Alors, il vaut mieux régler les choses vite, vite. Vous ne croyez pas ? Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, de faire des concessions à la vérité. La vérité, c'est la vérité. Mais il s'agit d'en faire pour ce qui concerne, je dirais, des différences de caractère qui, trop souvent, eh bien, manquent de souplesse et d'adaptation à l'autre. En tout cas, celui qui a l'Esprit de Christ en lui, eh bien, il préfère renoncer à un droit pour préserver la paix, plutôt que d'être impitoyable, allant jusqu'à étrangler l'autre. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est bien souvent quoi qui nous amène à être comme ça? C'est l'orgueil. Hein? L'orgueil, c'est l'opposé de l'Esprit de Christ, qui, lui, est à l'origine de toutes choses. Hein? Amen. Alors, Jacques, chapitre 3, et je vais aller conclure, hein? Jacques, chapitre 3, verset 14. « Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point de celui qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Alors soyons plutôt animés d'un esprit de bienveillance. » Amen. Hein? Écoutez, le chant des anges, vous le connaissez, ce cantique magnifique hein, de Luc, chapitre 2. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !» Et après, « Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent !» Alléluia ! C'est pas formidable ? La nouvelle Bible seconde traduit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts !» Et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Est-ce que Dieu prend plaisir en toi ? Oui ! Dis-le oui, il faut. Hein. Et notre traduction possible, c'est celle-ci. Parmi les hommes de bienveillance ou bienveillance envers tous les hommes. Amen. N'oublie pas que la créature qui est en face de toi, c'est une créature de Dieu. Mais celui qui veut te faire du mal, mais celui qui te contrarie, c'est une créature de Dieu. On oublie trop souvent ça. Parce qu'on lutte contre la chair. Et Dieu ne demande pas de lutter contre la chair, mais contre celui qui manipule les hommes. Hein. Amen, un peu de discernement. Hein. Alors, avant de conclure, permettez une réflexion. Si Dieu avait eu des dispositions malveillantes à l'égard des hommes, d'abord, il n'aurait pas donné son Fils pour le salut de l'humanité. Amen. Paul dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Il est mort pour nous. Et on va arrêter là. J'aurais encore des choses à dire, mais c'est bon. Le temps nous manque. Mais en tout cas, ce qui est formidable, c'est de réaliser que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Noël, c'est toujours d'actualité. Amen. Bien sûr, il y a l'Esprit de la fête. Et quand on a le Seigneur, ça ne nous empêche pas de faire la fête, mais de la bonne manière, en ayant à l'esprit pourquoi sur notre calendrier, il y a Noël, la venue du Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Amen.